Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Faut s'attendre au pire, papa. Biarritz et la côte atlantique sont devenues des zones très dangereuses.
Je peux vous offrir un café ? Avec ce qui se passe en ce moment, c'est trop bête de se croiser comme ça sans se parler.
On croit toujours qu'il existe un endroit protégé de tout, une île.
Vous allez où ?
Oh, je ne sais pas. Le train m'a laissé là, ils ont fermé la gare.
J'ai besoin de savoir si Laetitia est morte ou vivante.
Suivre une femme ne mène pas forcément en enfer. Prends-moi au grand jour, j'ai passé ma vie à me cacher. C'est un signe de te rencontrer au moment où tout s'écroule.
Chloé, mon ex-femme.
C'est fou ce qu'on baisse quand ça va pas.
Partir, mais pour aller où ?
Je sais pas, en Australie, sur des îles.
Je reste.
Toujours cette Laetitia.
C'est fou, comme les actes n'ont plus aucune conséquence.
Sans désir, rien n'arrive. Ne rien céder sur son désir, oui. Ne pas avoir peur de se perdre pour se retrouver. La jouissance est un moment de perte et de lâcher prise. Les gens qui ne jouissent pas ont peur de se perdre définitivement. Le manque de libido, c'est un manque de possible, de récit. Cette idée fertile fut accouchée dans un petit livre vert fort instructif intitulé « Le cinéma d'Arnaud et Jean-Marie Larieux ». Entretien avec Quentin Mével, sorti en 2015 aux éditions Independencia. À l'intérieur duquel ce duo solaire et fraternel d'auteurs-réalisateurs pyrénéens en activité depuis, disons, 1999 et leur premier long-métrage, Fin d'été, estime que le scénario doit être littéraire. Car sans littérature, il leur manque une dimension. Mais qu'il faut ensuite l'ancrer, ce scénario, dans des réalités géographiques, des lumières et des sensations de pur cinéma. Ce qu'ils nomment « entrer dans la matière ». Entrons, baignons-nous avec eux dans le torrent d'une filmographie toujours en mouvement, qui privilégie les mélanges de genres, la fantaisie, la marche à pied ou l'aventure, très souvent en haute ou moyenne montagne. Mais aussi, et surtout donc, les plaisirs des sens. Comme l'a écrit le critique Marcos Uzal à propos des auteurs désormais quinquagénaires d'Un homme, un vrai, en 2003, de Peindre ou faire l'amour, en 2005, des Derniers jours du monde, en 2009, ou de 21 nuits avec Patty, en 2015, la sexualité est chez eux omniprésente, sans jamais être considérée d'abord comme un problème, pas plus que ne le sont les rapports entre les sexes. Pour les Larieux, la sexualité est une forme suprême de liberté, à condition de se laisser porter par ses désirs, et ceci en parfait accord avec ses sentiments. Le couple de Peindre ou faire l'amour est exemplaire de cet idéal où l'homme et la femme renforceraient leurs liens en acceptant pleinement le désir de l'autre, et où l'infidélité sexuelle serait vécue comme un accomplissement de la complicité amoureuse. Cet accomplissement pouvant, à l'écran, prendre des formes amorales socialement, inceste volontaire ou involontaire, zoophilie, nécrophilie, mais même dans ces cas, la sexualité n'est pas soumise à un jugement ou réduite à une pathologie. Elle est regardée comme la vérité profonde des personnages qui s'assument souverainement au-delà de toute morale imposée. Pendant une heure, ces frérots rares et indispensables au cinéma français vont détisser les liens qui les unissent aux romans de Philippe Jean, Gabriel Whitcop, Jim Harrison ou Dominique Noguez, voire à une conteuse amérindienne en attendant de chanter « Tralala », leur comédie musicale en cours d'écriture qui se tournera à Lourdes avec une bande originale signée Catherine. Chaud ! Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez chaque dimanche de midi à 13h. Bonjour Jean-Marie Larieux.
Bonjour.
Bonjour Arnaud Larieux.
Bonjour.
Pour Pour essayer de comprendre ici pendant une heure votre rapport à l'écriture et à la littérature, j'aimerais que l'on parle de l'un de vos films pour lequel j'entretiens une passion à peu près totale, durable et depuis quelques secondes plus du tout secrète, qui correspond à tout ce que j'attends du cinéma français, Les Derniers Jours du Monde, sorti au creux de l'été 2009 avec dans les premiers rôles votre acteur fétiche Mathieu Amalric et d'autres corps réguliers de votre cinéma comme Sergi Lopez ou Karine Viard. Le film, je le rappelle, raconte explicitement les derniers jours du monde, des suites d'une catastrophe sanitaire dont l'origine n'est pas expliquée. Et nous suivons cet effondrement dans les pas d'un homme, Robinson Laborde, qui, au lieu de s'enfuir, de se mettre à l'abri face à une fin inéluctable, décide de partir à contresens pour tenter de retrouver une femme fatale, androgyne, qu'il a rencontrée quelques mois plus tôt, avec laquelle il a vécu une passion sexuelle inédite, qui a disparu, qui l'obsède et qu'il recherche entre la France, l'Espagne et la Russie, entre des bombardements, des secousses telluriques, des libertins suicidaires, une chouette ou les férias de Pamplune. Je crois que vous avez mis plus d'un an à écrire cette histoire, le tout, je vous cite, à l'approche de la quarantaine, puisque vous vous sentiez en bonne forme physique et vous vous êtes dit qu'il était temps pour vous de faire un grand film total, un film à grand spectacle qui resterait un film personnel. Quelle était l'intuition première de cette histoire d'apocalypse en cours ?
Le désir premier qu'on avait trouvé dans le livre de Dominique Noguès, d'ailleurs, puisque c'est adapté d'un roman qui
porte ce titre.
Éponyme, comme on dit. Donc le désir, il avait déjà une petite dizaine d'années. Voilà, c'est un roman d'aventure, alors très très complexe, très épais,
700 pages,
avec moult
digressions,
diversions, retour en arrière. Mais enfin, la trame et voilà cette traversée de la France pendant les derniers jours du monde, ça nous avait, voilà, le désir était énorme. Après, on se disait, c'est le genre de film extrêmement compliqué à écrire et surtout à réaliser et à trouver des partenaires financiers. C'est-à-dire, c'est des genres, l'apocalypse qu'on associe plutôt au cinéma américain, au blockbuster, tout ça. Mais on sortait de Peine ou faire l'amour, du succès de Peine ou faire l'amour.
En 2005.
La compétition officielle à Cannes, etc., etc. Donc très en forme, effectivement, 40 ans et très en forme, et chargé de ce désir d'aventure de cinéma, d'aventure romanesque. Donc voilà, on s'est lancé. Après une année d'écriture, c'est pas si long. Hein.
Non, c'est vrai.
Surtout vu l'épaisseur et la complexité du roman, en réalité c'était pas si long.
Non, c'est notre délai, franchement, l'écriture d'un scénario c'est un an. Et je crois assez peu, ou en tout cas ça se voit quand c'est écrit plus rapidement. Chez nous, ça se verrait certainement. Mais je pense, non, c'est un délai plutôt... Parce qu'il n'y a pas que le temps de l'écriture elle-même, comment dire, matérielle. Il y a le temps de cristallisation sur un sujet, sur les couches qui se mettent, sur les couches, etc. Je trouve qu'un an, c'est à peu près... Alors comme on sait que c'est un long effort, chaque fois on s'est dit non, cette fois-ci on va faire beaucoup plus court, et chaque fois c'est quand même...
plus long.
Et quand on dit un an, c'est en faisant quasiment que ça, c'est pas en partant à droite, à gauche, enfin on n'a pas d'autre métier que celui d'écrire quand on écrit, ou on n'est pas acteur, on fait pas de pub, on fait pas de télé, on fait pas... voilà, donc quand on écrit, on écrit.
Il faut savoir que le livre est sorti effectivement en 1991.
Exactement.
Voilà, et il parlait des années... Oui, ce qui fait que ce qui est troublant, c'est qu'on a quasi...
Tourné au moment...
Supposé du roman, qui à l'époque était d'anticipation, mais au moment où on a tourné... Et d'ailleurs, on n'a pas mis de date... Voilà, c'était un peu... Oui, c'était pas situé.
Il n'y a pas de date, mais ça se déroule au début du mois de juillet. La fin, c'est un samedi 14 juillet.
Votre film se base donc sur Les Derniers Jours du Monde, mais aussi sur un autre roman, je crois, de Dominique Noguès, qui s'intitule Amour Noir, sorti en 97, évocation d'un naufrage amoureux, mais ça vous fait marrer.
Dominique a écrit Les Derniers Jours du Monde et un éditeur, je ne sais plus lequel, celui d'origine ou un autre, lui a demandé de peut-être à l'intérieur de ce qu'il avait écrit dans Les Derniers Jours du Monde, de ne faire que le récit amoureux avec Laetitia, la rencontre avec Laetitia, et ça a donné Amour Noir. Et c'est ce roman qui a été plus lu, qui a eu le prix féminin, mais qui est déjà...
Ah, c'est une partie des Derniers Jours du Monde, d'accord.
Voilà, okay. Qui fait partie. C'est pour ça qu'au générique, c'est décomposé, mais en réalité, Les Derniers Jours du Monde englobe Amour Noir. À une époque où on était un peu plus avant de peindre ou faire l'amour, quand nos ambitions étaient plus réduites, on avait dit, on adaptera juste Amour Noir. Mm-hmm. Et puis après peindre ou faire l'amour, on s'est dit, en fait, le rêve, c'est d'adapter Les Derniers Jours du Monde.
Vous désirez ?
Bonjour, je cherche un cahier, un carnet, quelque chose pour écrire, mais...
Ah, pardon. Il vous faudra un traitement de texte, mais
Vous n'en trouverez plus en ville.
Ah bon?
Et je ne vous parle pas de la pénurie de papier. Regardez même les journaux. Peau de chagrin et catastrophe sur catastrophe.
Oh, je ne lis plus les journaux.
C'est une bonne résolution.
S'ajoute à ça, si j'ai encore une fois bien compris, une nouvelle de Jim Harrison publiée en 1981 qui s'intitule « L'homme qui abandonna son nom » à propos d'un homme quitté par sa femme qui renonce à tout pour vivre en Robinson.
Alors, Jim Harrison, c'est assez particulier. Il se trouve que, particulièrement cette nouvelle qu'on adore, c'est un peu... Alors, la nouvelle qu'on n'adapte jamais, mais à chaque film, on va voir le comédien, alors en l'occurrence souvent Mathieu, mais
Mathieu Amalric.
Tu vois, le personnage, c'est un peu le héros de l'homme qui abandonna son nom. Alors, et donc, on fait lire cette nouvelle, mais ça, c'était personnel sur quelqu'un qui était en déphasage. Oui, c'est quelqu'un qui s'est fait larguer par sa femme et qui est recueilli par sa fille. Et c'est une sorte de différence de génération, comme ça. Et c'est un type qui prend de plus en plus de recul sur tout ce qui se passe, comme ça.
Avec un rajeunissement, oui.
Et avec une sorte de rajeunissement.
Il est dans ce seul.
Et qui n'a plus peur de rien. Une espèce de désespoir qui lui fait prendre un recul, qui fait que...
Qui danse seul, c'est ce que vous avez dit, non?
Oui, oui. C'est pas qu'il se remet, mais il se met à danser seul.
Oui, un des titres, si on a adapté cette nouvelle un jour, c'est « L'homme qui danse seul ». Mais bien. En réalité, je crois que c'est la grande indication qu'on donne à tous nos héros solitaires. C'est l'histoire d'un homme qui danse seul. Voilà.
Comment vous avez procédé pour adapter cet ouvrage, « Les derniers jours du monde » ?
Après, le vrai fil du roman qu'on aimait beaucoup, c'est que c'est à hauteur d'homme. C'est-à-dire, on n'est pas dans les états-majors, même si on y fait des incursions, mais au moment où l'état-major est lui-même débordé. Donc, il n'y a plus vraiment... C'est la fin du monde du point de vue du moment où il n'y a plus d'informations. En réalité, on ne sait plus d'où ça vient.
Ouais.
Et on aime beaucoup ça. C'est le moment où les radios s'arrêtent, où les journaux s'arrêtent. Alors, quand on nous demande, mais on ne comprend pas d'où vient la fin du monde dans votre film, mais on se dit, mais non, mais nous, c'est le moment où plus personne ne sait.
Ça qui est
et
beau.
C'est ça que
oui. Oui, c'est l'incertitude.
Voilà, et c'est à la fois une liberté totale, une angoisse totale.
Mais en même temps, comme ça ouvre les possibles, tout peut s'ouvrir. Chaque fois que le héros rentre dans une ville, dans un appartement, enfin tout, c'est l'imprévisible par définition. Donc on aurait pu aussi, d'ailleurs, on en avait l'idée, pour être l'idée d'une série, quoi. C'est infini, ça peut devenir.
Ouais, c'est le paradoxe et le principe du film. Plus la fin approche. Plus les possibles s'élargissent,
oui.
C'est l'idée de l'inconcevable, à la fois terrifiante et vivifiante. Mmh. Et comment est-ce que vous organisez toute la matière textuelle, je repose ma question, à partir de ce torrent de savoir qui est 700 pages de Noguès comme ça?
On avait organisé un voyage géographique d'abord. Non.
Oui. Ouais.
Il se trouve que
l'itinéraire,
le livre nous donnait.
Oui,
il y avait un départ qui était à Biarritz, comme dans le roman. Disons que après, ça longeait un peu plus les Pyrénées. Nous, on fait un tour des Pyrénées, c'est-à-dire on passe par l'Espagne, la Navarre. On était passé par Pampelune, donc c'est une sorte de tour des Pyrénées avant de remonter sur Paris. Et puis avec les voyages qu'on a gardés, il y avait des voyages au Canada et des voyages au Japon.
En flashback. Mais après, c'est effectivement, c'était beaucoup élagué, essayer de retrouver ce fil dans le roman de Dominique, de garder ce fil-là, et après je pense qu'on a gardé pas mal de choses, en tout cas dans l'esprit des rencontres qui se fait. Sur la dramaturgie de base, je pense à Catherine Fraud, qui révèle son passé avec le propre père de Robinson. Ouais. Tout ça, on l'a conservé. C'est-à-dire ces micro-histoires qu'il rencontre un peu à chaque étape. Ça, on a conservé.
Parce que le bouquin de Dominique est très long, parce qu'il y avait il y a des recettes de cuisine, des analyses de livres, d'opéra, c'est plein de digressions. Mais c'est ça qui était très beau, qu'on aimait beaucoup. C'était une sorte de récit sur nos vies, alors avec les plaisirs et les goûts de Dominique, c'est-à-dire la culture un peu au sens plein et vivante. Ça va de la cuisine à la philo, en passant par la musique, mais et en même temps avec une espèce de gangrène morbide qui est la fin du monde, et en même temps on continue à vivre. Et ça devenait quand même une métaphore des vies qu'on vit. Ou en tout cas, si on allume les journaux télévisés, la fin du monde, elle est là chaque fois qu'on ouvre le flux.
Et on a perdu le contrôle. À force de vouloir trop bien faire et de miser que sur le confort, on a inversé les rôles. En voyant dans la fuite notre ultime effort, on a voulu prendre nos distances, laisser couler de l'eau sous les ponts et la vague sur la planche. On a même sorti nos habits du dimanche. se comporter vraiment qu'en cas d'urgence. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà l'hécatombe de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. S'il te plaît, dis-le-moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà l'hécatombe de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. Faudrait que nos mots retrouvent leur enfance. Qu'on redécouvre tous les jours à quel point elle est notre chance. N'est pas qu'un concours de circonstances. Si à force de s'en faire on se mutile la panse, y'a juste à laisser tomber la poussière. Essayer coûte que coûte de tout remettre à terre et de chercher l'oasis dans le désert. Mais dans le fond de tout ça, qu'en as-tu vraiment à faire? C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà l'hécatombe de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. S'il te plaît, dis-le-moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà l'hécatombe de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. Sur nos épaules, que se mettre à l'envers fera notre affaire, qu'on finit par aligner les deux pôles, que les deux pieds en l'air, on a les idées claires, on pourrait faire la part des choses, et se laisser attirer par la loi des contraires, comprendre enfin de quel mal on est la cause, avant de se retrouver à six pieds sous terre. C'est pas la fin du monde, rassure-moi, pas déjà l'hécatombe de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. S'il te plaît, dis-le-moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà l'hécatombe de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. S'il te plaît, dis-le-moi.
Mais je te le dis, mon vieux ludopin trentenaire de Sarcelles installé à Montréal, ce n'est pas la fin du monde, comme le clame ce premier extrait de ton album « Nos jours ne sont plus les mêmes », sorti fin janvier. C'est plutôt les derniers jours du monde. Et la nuance est d'importance, car j'ai encore quelques questions à poser à mes invités du jour, les frères cinéastes Arnaud et Jean-Marie Larrieux, sur ce merveilleux film, sur ce merveilleux road movie apocalyptique sorti en 2009, ce film catastrophe intimiste adapté du roman de Dominique Noguès qui, à la lumière de ce qu'il a coûté avec ses explosions et son tournage de Biarritz à Taïwan, fut un échec public à sa sortie en salle, attirant seulement 150 000 spectateurs. Mais avec les années, il a acquis petit à petit son statut de film culte, anticipant avec finesse la plupart des questions de collapsologie, d'écroulement progressif et inéluctable de notre civilisation thermo-industrielle, ce dont je vous parlais déjà la semaine dernière avec les jeunes créateurs de la série télé L'Effondrement, qui citent d'ailleurs le film des Larrieux comme l'une de leurs références immédiates. Les derniers jours du monde ont donc encore de beaux jours devant eux.
Nova Book Box, particulièrement élémentaire.
J'aimerais maintenant avoir votre avis sur cette réflexion de l'écrivain Dominique Noguès, qui, je le souligne parce que c'est joli symboliquement, qui a été votre professeur à la fac. Noguès dit « L'adaptation au cinéma censure l'imaginaire. Là où le lecteur a libre carrière pour donner chair et sang aux ombres symboliques de l'écriture, le spectateur de cinéma est devant un mur de formes, de gestes, de visages, de vêtements, de figures imposées. » Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bah ça me rappelle après la phrase qu'il a dit quand il a lu déjà au moment du scénario, il y avait l'idée de faire les coucous, c'est-à-dire on faisait notre nid dans son roman. Et ça lui posait pas de problème. Mais après, il a beaucoup aimé le film. C'est-à-dire que ces ombres, ces figures imposées l'ont vachement séduit, en fait. Et je pense aussi parce que c'était pas exactement... c'était un autre imaginaire. C'était...
Mais c'est ce qu'il dit. Il y avait de l'impureté dans l'adaptation. Il était heureux d'avoir... Il avait donné offert le nid et les coucous avaient fait leurs œufs et il les regardait avec puis avec quelque chose de la transmission aussi qui il a été super heureux comme ça d'avoir écrit et que tout d'un coup on s'empare du roman et on en faisait quelque chose, d'autres en auraient fait autre chose, mais
Quelle est la meilleure leçon que vous avez retenue de Noguez, professeur? Qu'est-ce qu'il vous enseignait d'ailleurs à la fac?
Alors, de suite, j'aurais dit tout, le mot qui m'a donné, tout est possible.
Ah oui.
C'est quelqu'un, et surtout tout ce qui est transversal. C'est-à-dire,
il faisait un cours d'histoire du cinéma expérimental. Donc déjà dans les...
Cinéma et avant-garde et cinéma expérimental. Ouais. Ouais.
Donc dans les couches underground, là où déjà tout est possible dans le cinéma. Donc, et puis une formation de philosophie, donc pas prêt à toutes les aventures de l'esprit.
Très classique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait une culture très classique et qui était intéressé par tout ce qui était un peu underground ou à la marge. Et ça donne un truc très détonnant et on peut aussi un peu s'y retrouver. Enfin, dans la manière dont on fait du cinéma, en écrivant des scénarios, en prenant des acteurs plutôt reconnus et peut-être en traitant des choses plus sauvages. Voilà, donc... Puis Dominique croisait beaucoup les activités, comme ça, la peinture, le cinéma, la littérature, qu'on pouvait passer d'un domaine à l'autre. Enfin, il n'était pas cloisonné comme ça.
Vous êtes face à un homme mûr, physiquement encore au point, et qui enseigne l'art d'écrire à des jeunes femmes très attirantes. Parfois, il ramènerait chez lui l'une d'entre elles afin de lui enseigner l'art d'aimer. Nadia? Lydia? Emma?
Est-ce que ça peut rappeler en partie une des caractéristiques que vous donnez au personnage de Marc dans L'amour est un crime parfait, quand il projette des extraits de L'âge d'or de Buñuel pour justement inciter ses élèves à tout imaginer, à faire surgir le primitif?
Dominique Noguès n'a en attitude n'a aucun rapport avec le Marc du film. C'était un professeur extrêmement timide qui regardait par la fenêtre pendant une heure et demie. On se demandait à qui il parlait alors qu'il avait 50 élèves devant lui. Oui, transpirant, rougissant, alors qu'il s'enflammait parfois, mais tourné vers la fenêtre. Et le Marc du film est vraiment l'opposé, alors, sauf qu'il cache beaucoup de choses.
En 2014, justement, quand vous adaptez Incident, ce roman de Philippe Jean à propos de ce Marc, professeur de littérature à l'université de Lausanne, qui enchaîne les liaisons avec ses étudiantes jusqu'au jour où l'une d'entre elles disparaît, et on se demande quel rôle Marc a eu dans cette disparition, et le sait-il lui-même. Quand je découvre, moi, le film à l'écran, je suis assez désarçonné par la langue. Je ne vous y reconnais plus, car vous avez choisi de transformer en dialogue des pans entiers du texte, du roman original. Pourquoi ?
C'est un... Comment dire, l'histoire, j'allais dire le plot. Je sais pas pourquoi je
un très bon cours, non?
Ce plot, ce plot, ok.
La deuxième partie de l'émission. Donc, le plot nous avait énormément séduit. Non, mais on aimait la langue, surtout. On aimait la langue et ça nous faisait assez marrer que souvent, comme ça, il y a une partie des gens de la littérature qui dédaignent un peu Jean en disant c'est pas un écrivain. Et ce qui est assez drôle, c'est que tout d'un coup, si on faisait entendre du Jean dans les dialogues, les gens disaient mais c'est très littéraire comme dialogue. Précisément, donc on aimait les phrases, on aimait. C'était une manière de mettre en valeur la matière des mots et des phrases de Jean.
Oui, puis le personnage, on trouvait que. Plus il parle de manière extrêmement sophistiquée, tout en disant des choses très justes, on défend tout ce qu'il dit, vraiment. Mais il ment sans arrêt, c'est-à-dire il couvre son énorme mensonge que lui-même ignore. Hein. Il sent qu'il se passe des choses en lui et qui le dépassent. Et cette langue, c'est comme pour combler un trou qu'on va découvrir petit à petit. Et voilà, il le comble de jolies choses, de choses très sophistiquées, mais qu'on aime bien, tous ses propos sur le printemps, sur le... Tout ce qui est... Alors, les cours, c'est un atelier d'écriture, dans le film. Tout le sujet traité par Marc, le prof, dans les ateliers d'écriture, vient de nous, ça, c'était pas dans le Jean. Donc, ces cours d'écriture, ces ateliers d'écriture sur le paysage, ça, c'était nous.
Et qui enseigne l'art d'écrire à des jeunes femmes très attirantes, avides de mordre à pleines dents, et dans la vie et dans la littérature. Cet homme pourrait aisément se mêler à de nombreuses soirées étudiantes, et parfois il ramènerait chez lui l'une d'entre elles afin de lui enseigner l'art d'aimer, sans lequel la littérature ne serait pas ce qu'elle est. Je suis fait. Eh bien non. Vu de l'intérieur, ce qui passionne cet homme, c'est par exemple l'arrivée tant espérée du printemps. ce mélange absolument détonnant de nouveautés et de souvenirs qui pointent son nez. Et comment apprendre à ces jeunes créatures le choix d'un mot, l'invention d'une phrase, la création d'un rythme pour traduire cette sensation, le renouveau. Voilà ce qui émeut cet homme.
Il y a l'intérêt d'un polar qui se passe à la montagne, en l'occurrence en Suisse. Là, cette fois-là, on avait envie de se...
changer de température.
De changer de montagne, on va dire, en tout cas.
Après les Pyrénées.
Mais aussi de gens qui parlaient, puisque leur métier, c'était l'université, l'enseignement de la littérature. Et donc, c'était donc l'occasion de pouvoir avoir des personnages qui jouent avec les mots, qui les échangent. Là, ils se battent avec des mots. Là, Denis Podalydès avec Mathieu Amalric. Et en plus, c'est deux manière d'être dans les mots différentes, c'est chouette, c'est une sorte de duel chaque fois qu'ils s'affrontent.
Le battleur.
Ouais. La musique a été faite par un groupe de plusieurs musiciens, mais quand ils travaillent ensemble, c'est le groupe Caravaggio. On aime beaucoup la musique de ce film. Tout d'un coup, là, on avait écouté des morceaux à la radio, on s'est dit, mais c'est eux qui doivent faire la musique de ce film. Ils avaient tellement fait de matière pour préserver les dialogues, la narration. On en avait écarté beaucoup. Et en fait, on a réouvert le film. C'est-à-dire, on a réouvert le mixage. Et on leur a redonné la main pour qu'ils puissent donc faire des ciné-concerts où ils jouent beaucoup plus, quasi 1h20, avec le film ouvert. Et donc, des moments muets, des moments parlants, des répliques au milieu des musiques. C'est un vrai travail qui a été fait 5, 6, 7 fois et qu'ils adorent faire. Et c'est troublant parce que c'est sur ce film très bavard qu'on a eu envie d'ouvrir la musique. Et il reste bavard, hein. C'est à la fois muet et sonore. Et c'est un travail assez passionnant parce qu'on voit tout d'un coup, quand les gens ne parlent plus, on voit le jeu muet des acteurs. Et puis tout d'un coup, on entend ce que c'est qu'une parole. Enfin, en réalité, on va dire que quasi la meilleure version du film, on commence à dire que c'est la version du ciné-concert.
Vous avez vu cette trace sur le visage? Vous foutez de ma gueule?
Oui, monsieur, c'est facile. Vous êtes battu? Êtes-vous en état de conduire, monsieur?
Monsieur, jetez cet objet. Mettez les mains sur le capot. Penchez-vous. Écartez les jambes. Je dois m'en assurer, je vais vous fouiller. Faites ce que je vous dis.
Écoutez, j'ai extrêmement mal à la tête.
Nova Book Box. Nova te masse la tête avec des mots très doux.
Mes sandales marchaient sur les branches. Tout en haut, mais encore sous les feuilles et à l'ombre de la chaleur, je me suis mise à cheval sur une fourche écartée en balançant mes pieds dans le vide. Il avait plu. Des gouttes d'eau tombaient et coulaient sous ma peau. Mes mains étaient tachées de mousse et mes orteils étaient rouges à cause de fleurs écrasées. Je sentais le bel arbre vivre quand le vent passait au travers. Alors, je serrais mes jambes davantage et j'appliquais mes lèvres ouvertes sur la nuque chevelue d'un rameau.
L'arbre, montons
à l'arbre, ce texte du poète et romancier Friponos Scandalus, Pierre Louis, 1870-1925, l'auteur de Trois filles de leur mère ou du manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation. Ce texte provient des chansons de Bilitis en 1894, ici récité par Arthur Ashe sur une musique de son compère Nicolas Repac. Lequel Nicolas Repac signait en 2015 la bande originale de 21 nuits avec Patty, comédie de pleine nature, sensuelle et arboricole, affamée d'éternels étés, réalisée par mes invités du jour, les frangins Arnaud et Jean-Marie Larrieux, un film avec Isabelle Carré, Karine Viard, Denis Lavant ou encore la chorégraphe Mathilde Monnier en danseuse fantôme.
Nova Book Box, l'insoutenable légèreté de lire.
J'aimerais qu'on prenne le temps de s'attarder sur le personnage d'écrivain joué par André Dussolier dans votre dernier film en date, 21 nuits avec Patty, sorti en 2015. Cette réjouissante comédie estivale faussement badine, s'agit-il de Leclésio ou d'un nécrophile recherché par les gendarmes depuis des années? Est-ce que Leclésio, d'ailleurs, ce Nobel voyageur, a vu le film?
On ne sait pas, je crois.
On n'a jamais reçu, il a été informé des projections, du fait qu'on utilisait son
image.
Une image, alors je ne sais même plus si c'est du Soulier. Non, il y a une image de...
Il y a plusieurs photos de lui dans le film.
Leclésio jeune, c'était venu un peu de là d'ailleurs.
Oui. De leur ressemblance en fait.
Avec la ressemblance dans les années 60, comme ça, entre du Soulier et lui. Et qu'on sache, non. Mais il a été averti en tout cas. Et puis on ne voulait pas, ça ne se voulait pas du tout, on utilise, disons, une certaine image publique de quelqu'un, mais on ne se permet pas du tout de raconter quoi que ce soit sur l'intimité.
De faire des allusions sur sa nécrophilie.
Non.
Ma grand-mère se tenait sur le seuil. Mon pauvre enfant, ta maman est morte. Puis, me saisissant la main, elle m'entraîna vivement. Je portais un costume marin dont la vareuse assez longue masquait heureusement la braquette que je n'avais pas eu le temps de refermer. La chambre de ma mère était pleine de monde, mais plongée dans une demi-obscurité. J'aperçus mon père, à genoux au chevet du lit, et qui pleurait. J'eus d'abord peine à reconnaître ma mère dans cette femme qui semblait infiniment plus belle,
plus grande, plus jeune, plus majestueuse qu'elle ne m'avait jamais paru jusqu'alors. Grand-mère sanglotait. Embrasse ta maman encore une fois, me dit-elle en poussant vers le lit. Je me haussai vers cette femme merveilleuse, allongée dans la blancheur du linge. Je posai mes lèvres sur son visage de cire. Je serrai ses épaules dans mes petits bras. Je respirai son odeur enivrante. Une odeur fine, sèche, musquée, de feuilles, de larves et de pierres sortait des lèvres de maman. Et soudain, la volupté interrompue ressaisit ma chair enfantine avec une brusquerie déconcertante. Pressée contre la hanche de maman, je me sentis parcouru d'une commotion délicieuse.
Une partie du texte déclamé par André Dussolier provient d'un roman étrange, intitulé Le Nécrophile, signé de la Française Gabrielle Whitcup, qui date de 1972. Un roman sadien et irrécupérable, dites-vous. Comment est-ce que vous êtes tombé dessus ?
Il y a des fois un peu internet, hein, on tape nécrophile et...
Et au lieu de tomber sur des vidéos, on tombe sur un roman.
Et voilà, on peut tomber sur le pire comme sur le meilleur, c'est-à-dire plutôt la littérature.
Quel souvenir vous reste de ce texte-là, de son style? Je ne connais pas ce livre-là. Ça a l'air assez
Ce qui est très impressionnant, c'est que c'est écrit à la première personne. Donc, ce n'est pas un livre sur un nécrophile, c'est écrit par un nécrophile. Enfin, le narrateur, oui. Enfin, pas l'écrivain, mais pas l'écrivaine.
Le personnage aime faire l'amour avec des gens
morts. Oui, et c'est ça qui est décrit. Donc forcément, on rentre au-delà du jugement, on rentre dans les sensations, dans les situations, du contact avec les corps, de l'odeur.
Des ressorts psychologiques.
Voilà, non, mais surtout, avec mille nuances sur ça, du coup.
Mais il y avait une grande distanciation, mais c'est assez terrible d'ailleurs. On l'a même conseillé à personne, cette lecture, parce qu'elle est. Non pas qu'elle soit trash, mais elle est assez terrible.
Il y a une énorme solitude.
C'est une sorte de domaine de la conscience. C'est l'énorme solitude. Ouais. Ouais, c'est quelque chose. Et donc ça touche à quelque chose. Appelons ça de l'inconscient. Mais en même temps, ça touche à un endroit terrible, mais qui existe sans doute. Mais c'était surtout ces rituels de quelqu'un d'extrêmement seul qui a donc cette dame Gabrielle Witkop, ouais, qui a une très belle langue, très distanciée pour prendre, de toute façon, pour parler d'un sujet pareil.
Parce que le roman n'est pas du tout provocateur là où on s'y attend. C'est pas faire l'amour avec des cadavres. C'est...
avait été d'autant plus provocant qu'il était pas édité dans les années 70 où il y avait un côté autour de la jouissance partagée. Et là, il y avait, c'était
un peu glaçant.
Oui. Donc nous, ça nous a permis, on ne s'est pas dit, on va recueillir des témoignages, mais ça nous a permis, à travers la littérature, comme ça, d'avoir une sorte de référent. Et à un moment donné, il y a un extrait, effectivement.
C'est une scène très belle dans un cimetière.
Il y a un extrait, alors pour le coup, il y avait quand même des correspondances du discours de réception du prix Nobel de Le Clésio.
Mais une nuit est arrivée une jeune femme. Son nom était Elvira. Dans toute la forêt des Imbéra, Elvira était connue pour son art de conter. C'était une aventurière qui vivait sans homme, sans enfant. On racontait qu'elle était un peu ivrognesse, un peu prostituée, mais je n'en crois rien. Et qui allait de maison en maison pour chanter, moyennant un repas, une bouteille d'alcool, parfois un peu d'argent.
Puisque quand même... Il y a des choses qui finissent par se croiser étranges, puisque le Clésio fait référence à une femme qui fait des contes au fin fond de la forêt amazonienne, où elle raconte des histoires où se mélangent ses amours, la prostitution. Mais pour dire que la littérature orale au fin fond de ces forêts était peut-être aussi importante que la littérature écrite. Et étrangement, ces rituels très trash de la nécrophilie.
Ce qui est Patty, c'est-à-dire ce personnage de l'Amazonie de le Clésio, c'est exactement notre Patty dans un petit village.
Et étrange.
Qui adore, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, se régale de raconter ses aventures sexuelles avec force, détails, sensations, plaisir partagé. Ouais.
Mais c'est le fait de la raconter, c'est-à-dire il y a un plaisir à le dire, alors à le parler.
Le temps de longs monologues.
Elle le revit quand elle le raconte. Et nous avec un peu.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Déjà au bal, j'étais bizarre. Je m'en voulais un peu de t'avoir laissée toute seule avec Zazar. Donc je me suis dit, je rentre, tant que je suis bien, contente, en forme. Bon, j'avais quand même fait la rencontre d'un beau brun, très typé, la cinquantaine. Un Espagnol qui fumait le cigare, il s'appelait Jesús, Jésus. C'était tentant de coucher avec Jésus. Mais bon, le moral n'y était pas. J'aime le cul, mais quand on ne le sent pas. Donc, je quitte la buvette, et Jésus, et je me mets à la recherche des garçons. C'est beau, hein? Introuvable. Je vais vers la voiture pour voir s'il n'y en a pas un qui dort dedans. Arrivé à la voiture, je tombe sur Jean-Marc et Polo en train de baiser une parisienne sur la banquette arrière. Je respecte ces moments-là. Il faisait doux, la nuit était claire. J'ai eu envie de marcher. Tu me regardes pas, d'accord? D'accord. Je suis très pudique avec les filles, c'est bizarre. Pas du tout avec les mecs avec qui je baise. C'est l'envie, je sais pas, ça rend dingue. Avec les hommes, je suis porno. Je couche toujours le premier soir. Et toute lumière allumée, si possible. J'aime tout voir et tout montrer tout de suite. C'est bandant.
Arnaud Larrieux, Jean-Marie Larrieux, j'aimerais maintenant savoir concrètement comment est-ce que vous arrivez à écrire ensemble, entre frères. Alors je vous imagine rêvasser côte à côte dans une maison de moyenne montagne au soleil, tous deux allongés dans le même hamac que celui qu'on voit dans 21 nuits avec Patty, allongés,
que
à discuter à partir d'une idée, d'une intuition, désir, d'un rêve.
Une idée magnifique toutes les 15 minutes, un peu de repos.
Je délire ou est-ce qu'on est très, ou est-ce qu'on est proche de la réalité? C'est un peu
pas du tout fonctionné. C'est super dur d'écrire.
Un secrétaire qui note.
Oui, c'est ça.
Et quelqu'un. Non.
Des citronnades.
On a changé un peu de discours parce que là il se trouve que là, ça va bientôt faire 4 ans qu'on écrit. On écrit pas mal de choses. Et on a décidé que donc c'était plutôt un plaisir. Avant, on disait que c'était une croix, mais on a décidé que cette croix, on l'avait choisie.
Bah, ça demeure toujours de simples conversations aussi sur où en sommes-nous des désirs de films, de nos histoires aussi personnelles. Parce qu'on ne fait pas les films avec une matière abstraite qui vient de trop loin. Des situations. Je me souviens que notre premier long métrage Fin d'été est clairement venu d'un été qu'on a passé dans le même village que Paty d'ailleurs. Et on a passé tous les deux, pour des raisons différentes, un été assez, assez spectaculaire et passionnant. Et on s'est lancé à deux dans l'écriture. Après, on s'est rendu compte assez vite que chacun commençait à écrire ses propres histoires et qu'on se retrouvait avec deux histoires parallèles et qui allaient être extrêmement compliquées à mélanger. Donc là, on a commencé à se poser les vraies questions de dramaturgie, c'est-à-dire quelle est l'histoire et comment elle avance. Bon, et on y est parvenu. Alors, il y a des deuils à faire. Il y a beaucoup de deuils à faire entre la rêverie primaire dont vous parlez sur le hamac, voilà, et le travail d'écriture. Il y a beaucoup de deuils.
Non, après, la question, c'est quand ça se passe bien, on rêve un peu le soir au dîner, mais sur le moment, c'est pas du tout du rêve, c'est assez...
Et après, de plus en plus, on réécrit un peu séparément. Alors là, on se met d'accord sur le synopsis, tout ça, on le fait un peu ensemble. Et après, on se sépare un peu des manières d'écrire, soit plus synopsis, soit plus détaillé. Parce qu'au bout d'un moment, d'être dans l'abstrait d'un synopsis, à un moment donné, il faut quelques scènes concrètes pour savoir un peu qui est qui, comment ça parle. Mais après, il faut revenir au synopsis, parce que dans le détail, on peut se perdre à l'infini. Alors Tarantino, j'ai entendu dire ça, il écrit quelques scènes très détaillées. Il ne connaît pas l'histoire. Et quand il a ça...
Ouais.
Non, il écoute de la musique. Beaucoup de musique. Et là, l'histoire lui vient.
Ah ouais.
Ouais. Est-ce qu'il boit beaucoup en écoutant la musique? Je ne sais rien.
Vous procédez non, mais, par...
Mais en tout cas, on a tout fait aussi le côté dans la même pièce, un qui écrit, ouais, un qui parle. Mais oui, là on peut s'envoyer des textes. Maintenant, c'est vrai que là, le dernier, on a quasiment écrit... pendant 6 mois, c'est ouais, quasiment pas vu. Alors sauf que, bon, on passe des longs coups de fil, des fois on peut s'appeler pendant 1h30. Mais,
vous habitez la même ville,
fin, et puis on a fini ensemble.
Ouais.
Vous habitez la même ville tous les deux?
Ouais. Plutôt, mais plutôt. Parfois, des fois, oui, on est à Paris, mais parfois l'un est... Non.
Vous engueulez
après,
beaucoup
ça arrive...
Vous êtes généralement sur la même longueur d'onde.
Mais... Faut pas oublier que c'est tous les metteurs en scène font ça avec un scénariste, hein, et ils changent pas de scénariste tous les 3 jours.
Quand ça fonctionne,
c'est des vraies histoires. Oui. Hein.
Je me demande quel avantage le fait d'être frère, quel avantage et quel inconvénient ça peut créer dans une relation au long cours comme la vôtre.
L'avantage, c'est un accord de principe sur les... Bon, on est resté frères assez longtemps.
C'est plutôt bon aussi.
Non, je veux dire qu'on a eu une adolescence assez proche. En réalité, on était une petite bande. Donc, les sensations d'adolescence qui, au fond, forment...
Nourrissent beaucoup de choses.
La base,
souvent,
ouais, le terreau. Et même après la première jeunesse, disons... Donc sur ce terreau-là, déjà, on a une entente, une connexion rapide. On n'a pas besoin de s'expliquer ce qu'on a vécu et pourquoi c'était ressenti comme ça. Même si ça vient, on se découvre encore au fil des...
Et après, dans les nuances, c'est vrai qu'on peut... Alors, à la limite, c'est dans les nuances qu'on peut... Bon, mais on commence à se connaître, donc on essaie de travailler un peu différemment.
Et ça, c'est bien d'être un peu dérouté de son propre... De son propre cheminement.
C'est pour ça qu'on travaille encore à deux. Sinon, c'est pas juste. Si c'est juste retrouver son double, ça n'a pas d'intérêt. C'est quand même si c'est de la nuance, mais quand même d'être surpris par ce que l'autre va écrire. Et puis en général, depuis quelques années, on a notre
consultant psychanalyste.
On l'appelle notre psychanalyste suisse, qui est un peu spécialiste de la dramaturgie. Là. Il s'appelle Antoine Jacoux. Et on le fait venir à partir d'un certain état avancé du scénario. Lui, il est un peu dans l'orthodoxie des dramaturgies, sur le récit, sur les attentes. Il lâche rien. Et là, il nous... Alors parfois, on dit même que c'est un peu l'ennemi qu'on fait rentrer dans la bergerie. Et on parle, et on parle, et on parle. Il n'écrit pas, mais il ne nous lâche pas.
Et quel est l'inconvénient d'écrire entre frères?
Mais quand ça marchait pas, des fois on s'est dit que tout seul, on aurait eu des inspirations différentes, on aurait été plus loin dans une direction. Moi, chaque fois qu'on se
surprend... On l'a déjà fait en même temps, oui. Hein, c'est-à-dire les premiers courts-métrages, on travaillait ensemble, mais très peu sur les scénarios, et on les signait chacun de notre côté.
On a commencé à écrire une série à 4, et là c'était quand même c'était dingue ce qu'on a... Avec un autre couple d'ailleurs, Dominique Moll et Gilles Marchand, qui ont une manière, enfin couple d'écriture. Mais c'était très troublant parce qu'on s'est aperçu que quand deux autres arrivaient près de nous pour écrire, la première fois qu'ils nous voyaient écrire devant eux, on avait l'impression de se montrer nu, comme une intimité écrire. On s'est aperçu que c'était quelque chose de... Enfin, on n'avait jamais écrit devant quelqu'un. Et par exemple, on a découvert que la série, c'est un peu tout le monde à poil dans une grande salle. Enfin, c'est
la fameuse writing room.
Même si c'était en France, c'était... Ouais.
Mais eux étaient beaucoup plus à l'aise avec ça. Ils ont ouvert les ordinateurs tout de suite. Et...
C'était quoi cette
histoire? J'allais dire, ils ont enlevé le vêtement très vite.
Ils se sont baignés, quoi. Voilà.
Ouais.
Pourtant, on est réputé pour pas être pudique. On s'est aperçu qu'en fait,
ils lisaient même à haute voix ce qu'ils étaient en train d'écrire. Nous, c'était totalement impossible.
Qu'est-ce que c'est que c'est quoi cette série? Elle va voir le jour?
Elle est
en pause.
Elle est en pause, mais on espère.
Elle a été développée chez Canal en partie, et là, elle est en pause.
C'est le sujet confidentiel?
Oui, je préfère dire oui. Je sais pas.
Quand c'est fini, ça n'est jamais fini. Quand c'est fini, quelque chose grandit. Quand c'est fini, ça n'est jamais fini. Quand c'est fini, quelque chose jaillit. Quand c'est fini, ça n'est jamais fini. Quand c'est fini, quelque chose jaillit, 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 jaillit. Oui!
Oui, vous l'avez reconnu, c'est Philippe Catherine. Quand c'est fini, avant-dernier titre de son album Le Film, en 2016. Mais cette interview avec les frères cinéastes Arnaud et Jean-Marie Larrieux, elle, n'est pas terminée.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Vous étiez tous les deux, il y a peu, parmi les invités d'honneur de la 20e édition des Journées cinématographiques de Saint-Denis, dont le thème était cette année « La vie est un songe ». À ce titre, je vous ai envoyé quelques questions sur votre rapport à l'onirisme, la place qu'occupent les rêves dans votre vie et dans votre imaginaire de cinéphile. Cette interview est à retrouver en intégralité sur nova.fr, mais il y a deux ou trois réponses sur lesquelles j'aimerais obtenir des éclaircissements. Jean-Marie, par exemple, vous m'avez dit que dans la plupart de vos scénarios, vous avez tous les deux écrit des scènes de rêve qui ont finalement toujours été enlevées dans les dernières versions, et que vous n'avez donc jamais tourné. Pourquoi? Pourquoi c'est si récurrent, ça? Retirer le rêve?
Mais parce que chaque fois, on se dit que...
Je dirais, on peut partir de l'inverse. Hein. C'est pourquoi, à un moment donné, on a besoin d'une scène de rêve. C'est aussi une exploration du personnage. Tiens, s'il dormait et qu'on partait avec lui, qu'est-ce qu'il ferait, où est-ce qu'il irait? C'est une manière de faire un peu plus connaissance avec lui. Mais après, dans le déroulement du film, le...
si c'est réussi,
c'est pas forcément intéressant. Ce rêve, en fait, c'est comme s'il déteignait un peu sur le personnage autour, sans qu'il y soit. Et on préfère ça.
En réalité, si on a bien écrit et bien tourné, a priori, ces idées de rêve, elles ont déjà infusé le reste.
Arnaud, quant à vous, quand je vous ai demandé quel était le dernier rêve dont vous vous souvenez et qui continue de vous surprendre, vous m'avez raconté l'histoire d'une petite bestiole à la Jérôme Bosch, très mal placée sur votre personne et qui se moquait un peu de vous, même si elle paraissait plutôt amorphe, pas complètement vivante, à la fois dégueulasse et comique. Cette bestiole ressemble à, dans vos rêves, deux petits haricots blancs accolés, pâles et chétifs, surmontés d'une crête de coq, de jeune coq, de coq adolescent, en planque dans un recoin très sensible de votre anatomie. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur l'origine supposée de ce rêve et l'interprétation que vous en faites?
Alors effectivement, c'est haricot. On vient de Lourdes, qui est à côté de Tarbes, et il y a le haricot tarbé. Et j'en ai mangé il y a 15 jours chez maman. Et oui, une petite crête de coq, oui, c'est la ligne de crête des Pyrénées. Quand on arrive du nord, donc de Tarbes, de la plaine des haricots vers les Pyrénées, ça ressemble à une crête de coq. Donc que le rêve, enfin je sais pas dans quel coin du cerveau, associe toutes ces choses en se disant, tiens, c'est quoi le message? Alors c'était très mal placé, donc dérangeant.
Et voire même Pyrénées, qui rappelle la zone du Périnée.
Du Périnée. Donc cette bête était vraiment... c'est un quasi-cauchemar. Hein. Mais en même temps, elle était un peu amorphe. Donc il y avait quand même un mauvais présage.
Je crois que quelques heures avant ce cauchemar, vous avez aussi revu la pochette du dernier album de Philippe Catherine, Confession, qui le représente, rappelons-le, avec un appendice nasal qui a la forme du sexe masculin. Est-ce que ça a pu jouer ?
Énormément, je pense. Énormément, et pour beaucoup de raisons. Mais surtout sur le côté déguisement et déplacer des trucs. On se déguisait beaucoup quand on était ado. Avec cette petite bande, on faisait du Super 8, on se déguisait beaucoup.
Et voilà. Au même moment aussi, je vous expliquais dans le texte qui est en ligne sur notre site, qu'une déconvenue minime vous est tombée dessus liée au film que vous êtes en train de terminer d'écrire, et vous êtes demandé est-ce que c'est prémonitoire, cathartique.
Moi, je le laisse.
Est-ce que c'est la fin des haricots?
Je le laisse sortir littéralement.
Non, c'est pas la fin des haricots.
Ce prochain film, corrigez-moi si je me trompe, sera une comédie musicale qui raconte l'histoire d'un miracle pas vraiment religieux. Son titre, Tralala, du nom d'un personnage de chanteur-compositeur de 48 ans qui se clochardise. Un soir, il croit rencontrer la Sainte Vierge qui lui dit « Surtout, ne soyez pas vous-même ». Le film bénéficiera d'une bande originale signée Philippe Catherine et d'une chorégraphie de Mathilde Monnier. Où en êtes-vous de l'écriture à l'heure actuelle ?
Quasi terminée.
Quasi terminée.
Où en êtes-vous du casting ?
En cours.
En cours, en tout début.
Non, on ne peut pas en parler, parce que les gens ne sont même pas au courant. Donc...
Où en êtes-vous du financement ?
C'est une fois qu'on a le en tout cas un début de casting sur les rôles principaux que le film part au financement. Mais on a par contre le bon signe, c'est qu'on a eu l'aide au film de genre du CNC pour les comédies musicales. Voilà, donc... Il y a eu 3 projets et on y était. Et c'est de bon augure.
Pourquoi une comédie musicale ?
Ça fait longtemps qu'on l'a dans la tête.
Oui.
Depuis Un homme vrai, en réalité, où déjà Mathieu chantait à certains moments.
Depuis 2002-2003.
Ouais. Ouais,
et il chantait à certains moments, justement, où c'était pas tout à coup ça se met à chanter, c'est tout à coup le personnage se sent de chanter. Et...
Je suis un homme, un vrai. Je suis dans tes bras.
Et c'est un film sur les parades, le rituel amoureux. Donc ça chantait à un moment donné. Mais c'était par petits bouts, ça venait uniquement du personnage. Mais on s'est toujours dit...
Oui, depuis longtemps, c'est un jour, on fera une comédie musicale. Puis il y a un âge où on commence à se dire, bon, mais c'est pas un jour, c'est...
Il faut le faire.
Ce jour-là est venu, maintenant. Et puis Lourdes. On tenait à ce qui est notre lieu de naissance, d'aller faire un film à Lourdes, un long métrage, un vrai film. Et l'idée d'en faire une comédie musicale, alors là, c'est une sorte d'hommage à Demi, mais pas juste un hommage cinéphilique sur... je sais pas, on se disait que si Demi, ça aurait pu faire partie des... Il y a eu Rochefort, il y a eu Cherbourg, et Lourdes aurait pu faire partie de...
Bah, c'est quand même le lieu d'origine des voix. Hein, quand les gens entendent des voix, on n'est pas loin de Lourdes. Et des chants.
Si on devait parler vraiment de ce qu'on veut faire dans cette comédie musicale, c'est pas justement la musique descend pas de Dieu. C'est qu'on aimerait confronter des gens avec des univers musicaux qui se parlent ou qui se parlent pas, mais l'idée c'était celle-là, qui était forte, qui était... Ben, pourquoi ça descend toujours d'en haut ? Non, pas forcément. Comme dans la vie, si on rencontre quelqu'un, il y a un univers de paroles et de musique qui arrive.
Quand vous dites d'en haut, c'est quoi ça ?
D'en haut, c'est hauteur. Ce qu'on appelle Dieu.
Ah oui.
C'est quelque chose. Oui, non, mais
le genre de comédie musicale.
Le genre, je sais pas. Ou même, on aime beaucoup Demi, encore une fois, mais la musique descend de Michel Legrand. Tout le monde parle de Michel Legrand. Enfin, la musique. Ce qu'on veut dire, c'est que
donc
dans la vie,
une musique très élaborée.
Dans la vie,
savante en fait. C'est ça.
C'est pas savante, c'est que...
Et un peu uniforme, dans le
uniforme,
même genre.
Ah oui,
c'est
toujours la même.
Ouais. C'est la même. Magnifique. Donc, ce qu'on veut dire, il pourrait y avoir un rappeur qui parle à quelqu'un de variété, qui parle à un rocker, et
qui parle à un DJ, etc. Machin, ouais.
Chez une dame qui est dans l'opéra.
Ok.
Voilà, c'est ça qu'on veut dire.
Très bien.
Là, on en a dit beaucoup, là. Hein.
Là, on en a dit...
quasiment décrit une scène.
Votre relation d'amitié et de travail avec Philippe Catherine, très forte, remonte à donc 2002-2003, à partir du tournage d'Un homme, un vrai, pour lequel il a composé la BO. Il jouera par la suite dans Peindre ou faire l'amour, Le voyage aux Pyrénées ou Les derniers jours du monde. Est-ce que c'est lui, comme je le suppose, qui interprétera ce chanteur clochardisant aux apparitions virginales?
A priori. Mais là, il est parti en orbite. Il est très très haut dans les astres. Donc, on attend un peu son atterrissage pour.
Est-ce qu'il en tournait un peu partout pour des dizaines et des dizaines de dates?
Oui, tournée, oui, puis... tournée, tournage, tournant, tournicotant. Ouais. Tralala.
Merci beaucoup Arnaud et Jean-Marie Larieux. Je vous souhaite beaucoup de courage pour le futur tournage de cette comédie musicale. Tralala.
Merci, bon Merci. Dimanche.
La Nova Book Box, c'est déjà fini. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Sullivan Clabot avec l'aide à l'enregistrement de Nabil Chaffa. Programmation musicale, Mickaël Yo. Oh, Dja Rastafari. La semaine prochaine et la semaine d'après, le jukebox littéraire de Radio Nova vous emmènera en Bretagne, à Brest, où je me trouve en ce moment même, à l'heure où je vous parle, doté d'une certaine ubiquité. Pour une émission spécialement goupillée pour Longueur d'onde, festival de la radio et de l'écoute, où nous sommes précisément en ce moment en train d'enregistrer une adaptation, en deux parties, du Négus. Ce récit du règne ubuesque de Haïlé Sélassié, dernier empereur d'Éthiopie et dirigeant légitime de la terre, selon les Rasta. Le tout d'après l'enquête du journaliste polonais Richard Kapuscinski, publiée en 1978, elle-même composée des témoignages de la cour du lion de Judée. Et pour raconter cette fresque sur l'art antique de gouverner, les manières et la chute, en 1974, après quasiment 44 ans au pouvoir, la chute de ce tout petit tyran de 92 ans, une musique originale sera interprétée en live par Samuel Hirsch et Fabien Girard, deux hauts dignitaires de ce redouté groupuscule d'Ethio-Jazz, Arat Kilo. L'Empire contre-attaque, rendez-vous donc dimanche midi sur Nova, bon après-midi, et n'oubliez pas, comme l'a dit Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.